Deutsche Welle, Info, Matin.
Jeudi 29 juin 2017, bienvenue à vous sur les ondes de Deutsche Welle. Quelle excellente idée de vous être branché sur Info Matin. Pour vous saluer au micro, Sandrine Blanchard et Kosivi Tiatsou.
Bonjour Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Au sommaire de cette édition matinale, les violences dans le Kasaï en République démocratique du Congo et la souffrance des populations déplacées.
La Côte d'Ivoire, le point sur des rivalités politiques bien vivaces en sous-main à l'occasion des 10 ans de l'attentat contre l'avion qui transportait Guillaume Soro.
Mais aussi un zoom sur les tensions au Venezuela et le bras de fer qui continue entre le Qatar et l'Arabie Saoudite.
Et puis comme le veut la formule désormais traditionnelle, ce matin encore, il va y avoir du sport. Ali Farhad, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Au bout du suspense, au bout de l'ennui, le Chili s'est qualifié pour la finale de la Coupe des Confédérations en battant le Portugal au tir au but. Une performance majuscule du gardien Claudio Bravo qui a sorti toutes les tentatives portugaises.
Avec un nom comme ça, évidemment. Et on ouvre avec le flash info que c'est Vitiassou. En Syrie, des dizaines de milliers de civils pris au piège à Raqqa, selon l'ONU.
Les chiffres donnés par les Nations Unies sont très alarmants. Près de 100 000 civils seraient encore pris au piège à Raqqa, principal bastion du groupe État islamique en Syrie. Les forces démocratiques syriennes, des anti-djihadistes, tentent de reprendre difficilement la ville. Avec l'intensification des frappes aériennes et des combats au sol, le nombre de victimes civiles augmente et les voies de fuite se ferment les unes après les autres, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La ville de Raqqa est située dans le nord du pays et comptait environ 300 000 habitants avant la guerre, en majorité des Arabes sunnites. C'est également la ville des chrétiens arméniens. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé à nouveau des positions du régime syrien hier en réponse à des tirs au mortier sur le plateau du Golan occupé. C'est le troisième incident du genre depuis samedi.
Sous la pression des États-Unis, l'ONU va devoir réduire le budget des casques bleus.
Une réduction de 600 millions de dollars, soit 7,2% selon un accord de principe obtenu hier à New York après des semaines d'intenses négociations. Cet accord doit être encore validé par l'Assemblée générale de l'ONU. Le vote pourrait avoir lieu dès demain. Les Nations unies dépenseront un peu plus de 7 milliards de dollars pour leur opération de maintien de la paix l'an prochain, au lieu de 8 milliards environ actuellement.
Certains hommes d'affaires vont pousser un ouf de soulagement. Les nouvelles règles de sécurité sur les vols vers les États-Unis ne prévoient pas finalement l'interdiction des ordinateurs.
D'après le ministre américain de la Sécurité intérieure John Kelly, les nouvelles mesures imposées consistent notamment à des contrôles plus serrés sur les passagers à destination des États-Unis et des vérifications accrues de leurs appareils électroniques. Le 21 mars dernier, invoquant un risque d'attentats, les autorités américaines avaient interdit aux passagers en provenance de 10 aéroports de 8 pays arabes et turcs de transporter en cabine ordinateurs portables, tablettes et autres appareils électroniques. En France, ces trois associations ont annoncé qu'elles vont déposer aujourd'hui à Paris une plainte visant la banque BNP Paribas pour complicité de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le cadre du génocide rwandais, un génocide commis en 1994. L'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ibuka France accusent le groupe bancaire d'avoir permis le financement de l'achat de 80 tonnes d'armes ayant servi à la perpétration du génocide.
Et puis l'argentier du Vatican rejette vigoureusement les accusations de pédophilie qui sont portées contre lui.
Le plus haut responsable catholique d'Australie qui avait été interrogé à Rome par la police de son pays en octobre dernier a été mis en examen pour de multiples sévices sexuels sur enfants en Australie. Âgé de 16 ans, le cardinal Pell est appelé à se présenter le 18 juillet prochain devant le tribunal de première instance de Melbourne pour y être entendu. Il s'est provisoirement retiré ce matin de ses fonctions.
Et ce, afin d'organiser sa défense. Deux millions. millions, ils sont 2 millions de déplacés à avoir été recensés dans les provinces congolaises du Tanganyika et du Kasaï. Un chiffre inouï et bouleversant, pour reprendre les termes de la mission conjointe du Programme alimentaire mondial, le PAM, et de la FAO qui les a publiés, ces chiffres. En guise de comparaison, 2 millions de personnes, cela équivaut à l'ensemble de la population du Maniema.
Après l'Église catholique, c'est au tour des Nations Unies de tirer la sonnette d'alarme. Dans la province du Kasaï, des milices continuent de commettre des atrocités imaginables. Les populations civiles sont pourchassées, mutilées ou encore assassinées. Lina Staud est allée à la rencontre des villageois désemparés du Kasaï.
Présentation de Marco Voltaire.
Nous avons été torturés, attaqués. Comme nous, on n'a pas des armes, même des couteaux. Nous avons été surpris par des calibres et des machettes.
Isaac Akadoué est enseignant. Il aime son travail. Père de famille, 3 enfants. Il en attend un 4e. Mais aujourd'hui, la famille Akadoué se retrouve dans un camp de réfugiés en Angola. Ils ont fui les violences en République démocratique du Congo. C'est également le cas de ce villageois.
Ils arrêtent les jeunes gens n'importe comment et innocemment. Nous sommes vraiment indignés de ces comportements-là.
Ce villageois du Kasaï n'est pas le seul à vouloir la paix. 1,3 million de personnes originaires de cette province ont été déplacées et certaines sont encore sur la route. Jusqu'à présent, seulement quelques milliers ont pu atteindre l'Angola voisin. Brigitte Ibompenge est l'une des rares personnes qui ont eu cette chance. Elle est désemparée et désespérée.
Je suis très triste parce que nos gens meurent, nos vies sont détruites, nos filles disparaissent. De très mauvaises choses sont arrivées. Tout ce que nous voulons est la paix au Congo.
Le conflit meurtrier dans la province congolaise du Kasaï a attiré l'attention de la communauté internationale en mars dernier, lorsque 2 experts de l'ONU ont été enlevés puis assassinés par des miliciens.
Toujours en RDC, les boucheries sont fermées depuis le début de la semaine à Bunia.
La corporation a en effet décrété un deuil de 7 jours dans la région pour protester contre l'assassinat la semaine dernière de 2 membres de l'association des bouchers de l'Ituri dans la plaine du lac Albert. Les abattages ont été suspendus à l'abattoir industriel de Bunia. Les autorités craignent une hausse du prix du poisson, des pénuries de viande ou pire, la circulation de viande non contrôlée par les vétérinaires.
Dans la capitale tchadienne, fini l'alcool, la chicha, le tabac et les habits jugé indécent aux abords des établissements scolaires. Une interdiction prononcée par la mairie de N'Djamena équivaut dans un rayon de 300 mètres autour des écoles. Idem pour les vêtements moulants, prohibés également dans les lieux de culte sous peine de sanctions sévères.
Et au Cameroun, le procès des leaders anglophones devrait reprendre aujourd'hui dans la ville de Yaoundé.
Si vous voulez nous écrire, nous poser des questions ou simplement nous donner votre avis sur l'actualité, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à français@dw.com. Vous pouvez aussi nous envoyer un message audio en vous inscrivant à notre service WhatsApp.
Rendez-vous sur WhatsApp pour recevoir toutes nos infos, nous envoyer vos messages audio. Inscription gratuite sur dw.com/WhatsApp.
La constitution de 1992 mérite un toilettage parce que le Mali évolue. Déclaration de manifestants hier devant le palais des sports de Bamako. Près de 4000 personnes s'étaient rassemblées pour défiler en faveur du projet de révision de la constitution proposé par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un projet qui devrait être soumis à référendum, mais la consultation prévue à l'origine le 9 juillet prochain a été reportée sine die.
La numéro 2 des Nations Unies estime que la réponse à la crise au Sahel ne peut pas être simplement d'ordre sécuritaire. Amina Mohamed souligne en effet que l'instabilité dans la région est transfrontalière et multidimensionnelle. Pour la résoudre, selon elle, il faut donc aussi prendre en compte le crime organisé, le manque de développement, la mauvaise gouvernance, les conditions climatiques ou encore le non-respect des droits de l'homme.
Au Burkina Faso, les policiers radiés réclament d'être réintégrés. Au total, 136 policiers avaient été révoqués en 2012 pour avoir provoqué des mutineries l'année d'avant. Réunis hier place de la Nation dans la capitale, ils en appellent désormais à la justice et à l'unité nationale pour demander leur réintégration.
Toujours au Burkina Faso, l'incursion violente de musiciens dans une d'une radio de Ouagadougou continue de défrayer la chronique. Alors tout a commencé hier par un coup de sang d'artistes regroupés au sein de la coalition pour la renaissance artistique au Burkina Faso. En fait, ils sont agacés que l'animateur HK ne diffuse pas assez de musique burkinabé à leur goût. Alors ils ont fait irruption dans son studio de la radio Omega et l'ont délogé violemment. Une vidéo de leur altercation a été publiée sur Facebook, vidéo dans laquelle on entend un artiste menacer l'animateur radio. Devant l'émoi suscité par cette incursion, Bam Radi, le coordinateur de la coalition des artistes, a estimé qu'il s'agissait, je cite, d'une erreur et il a fait son mea culpa.
En Côte d'Ivoire voisine, le 29 juin 2007, Guillaume Soro échappait de peu, on se souvient, à un attentat à Bouaké. Alors, Premier ministre de Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, voyageait à bord d'un Fokker 100 lorsque l'avion a essuyé à son atterrissage des tirs de roquettes. Trois personnes sont alors tuées et plusieurs autres blessées. Pour marquer le 10e anniversaire de cet attentat, une série de manifestations sont prévues ce matin à Abidjan, la capitale économique du pays. Mais beaucoup d'observateurs croit savoir que la commémoration de ce triste anniversaire cacherait quelque chose. Eric Topona.
Parmi les personnalités qui prendront part à cette commémoration, on peut citer Afoussi Bamba. L'ancienne ministre de la Communication était à l'époque des faits le porte-parole de la rébellion des Forces Nouvelles, dirigée par Guillaume Kibafori Soro. Et sur sa page Facebook, Afoussi Bamba a réitéré sa loyauté à son ancien patron, actuellement président de l'Assemblée nationale. Une prise de position remplie de sens, estime Boga Sivori, le secrétaire général du journal ivoirien, La Voix Original, un organe de presse proche du FPI, le Front Populaire Ivoirien de l'ancien président Laurent Koudou Gbagbo, aujourd'hui détenu à La Haye. Boga Sivori.
Un affrontement qui s'annonce entre les pro-Ouattara et les pro-Soro. Chacun se détermine. Ce qui est ressorti, c'est que hier, ceux qui étaient amis pour faire la guerre à Laurent Gbagbo, aujourd'hui s'affrontent pour le pouvoir. Ce sera estime qu'après Ouattara, ça doit être mis. Et les Ouattara ne voient pas les choses de cette façon. Donc les gens, ils se déterminent. Hein. Et donc, elle est allée dans son camp d'origine autour de ça.
L'anniversaire de l'attentat est célébré chaque année depuis 2007. Se défend Konaté Siratigui, président de l'amicale des victimes du Fokker 100, par ailleurs administrateur à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro ne sont pas en conflit. Donc, ce ne sont pas deux camps qui s'opposent. Ce ne sont pas deux camps qui s'affrontent. Afoussi Bamba a été invité au même titre que tous les ex-forces nouvelles et tout aussi d'autres personnalités de la Côte d'Ivoire qui ont, elles aussi, confirmé leur présence à cette activité. Et Afoussi, elle a un site internet, elle est libre de faire des déclarations. Donc, le fait qu'elle retrouve ses anciens amis des forces nouvelles, cela ne pose aucun problème. Donc, j'estime qu'il n'y a pas vraiment lieu à débattre sur la chose.
10 ans après l'attentat contre l'avion qui transportait Guillaume Kibafori Soro à Bouaké, l'enquête n'a toujours pas abouti. Et les acteurs politiques, précisément ceux du RDR au pouvoir, semblent plus préoccupés par la présidentielle de 2020 et la succession du président Alassane Dramane Ouattara, car la constitution ivoirienne ne l'autorise pas à briguer un troisième mandat.
En plus bref, à présent, l'Italie hausse le ton et menace de bloquer l'entrée de ses ports aux bateaux transportant des migrants secourus en Méditerranée battant pavillon étranger. Pour les autorités italiennes, la situation a atteint la limite du supportable après les dernières arrivées massives de migrants sur ses côtes au cours des derniers jours. Selon des médias locaux, le représentant italien auprès de l'Union européenne, Maurizio Mazzari, a rencontré hier à Bruxelles le commissaire européen chargé de l'immigration. Le commissaire européen à qui il a remis une lettre à ce sujet.
À Berlin, s'est justement ouvert hier le 10e Forum mondial sur les migrations et le développement. L'occasion pour plusieurs hauts responsables de l'ONU de plaider en faveur de davantage de droits pour les migrants. La réunion est censée aboutir à l'établissement par les États participants d'un pacte mondial sur les migrations, et ce avant la fin de l'année 2018.
Signalons la répression violente d'une manifestation de chômeurs au Sahara occidental. Des policiers ont pris notamment pour cible Hassana Abba, un militant pour l'autodétermination du peuple sahraoui, qui aurait été arrêté.
Et puis, en Angola, l'ONG Human Rights Watch appelle la justice à abandonner les charges contre deux journalistes qui sont accusés d'outrage à un représentant de l'État et insulte à l'autorité publique. Marques de Moraes dirige le site anticorruption Maca Angola et Mariano Brach Lourenço est le directeur de publication de l'hebdomadaire O Crime. Selon Human Rights Watch, ces deux journalistes n'ont fait que leur métier en publiant un article sur les acquisitions illégales de terrain, mettant en cause directement un procureur général du pays.
Plus festif, Sandrine, avant de passer à l'actualité hors Afrique, signalons la tenue en ce moment à Lomé au Togo du Festival Africa Rhythmos, en plus de concerts prévus ce soir, demain et samedi, des ateliers sont organisés autour des musiques d'Afrique.
Deutsche Welle, rendez-vous sur facebook.com/dw.français.
Il est 9h15 en Allemagne, 6h de moins au Venezuela.
Le Venezuela où la procureure générale Luisa Ortega risque de payer au prix fort de ne pas avoir la langue dans sa poche. Les autorités ont annoncé qu'elle comparaîtrait la semaine prochaine, le 4 juillet, devant la Cour suprême du pays. Et cette partisane de Hugo Chavez, entrée en dissidence avec son successeur, a en effet multiplié les sorties médiatiques contre le gouvernement du président Nicolas Maduro, comme hier par exemple, alors que le chef de l'État affirme avoir fait l'objet d'une tentative de coup d'État avortée mardi.
J'appelle au rétablissement effectif de la Constitution, à l'annulation des mesures prises par le gouvernement, des mesures qui affaiblissent le pouvoir judiciaire et qu'en aucun cas, les représentants du ministère public et le pays dans son ensemble ne seraient à même de reconnaître.
Le Tribunal Supremo de Justicia.
La Cour suprême est constituée des personnes qui dénigrent le plus la Constitution. Et ça, je ne peux l'accepter. Il ne faut plus qu'une autorité publique puisse dire à quelqu'un « je ne vous aime pas » ou « je vous veux du mal, alors je vais prendre des sanctions contre vous ou vous mettre en prison ».
Luisa Ortega, l'interdiction de quitter le territoire et tous ses avoirs ont été gelés.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Cela fait maintenant une semaine que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont transmis au Qatar une liste de 13 demandes à satisfaire avant la levée du blocus qu'ils infligent toujours au petit Émirat.
Parmi ces exigences figure entre autres la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera ou encore la réduction des relations entre le Qatar et l'Iran. Les États-Unis, mais aussi l'Allemagne, ont mis en garde sur le fait que le Qatar aurait du mal à satisfaire certaines demandes. Ils appellent Riyad et ses alliés à réduire leur liste aux requêtes raisonnables et recevables. Bob Barry.
Selon les chefs de la diplomatie américaine et allemande, les 13 points imposés par l'Arabie Saoudite et ses alliés aux autorités de Doha sont irréalisables. Dans un langage diplomatique, le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a déclaré qu'il serait difficile pour le Qatar de supporter les conditions imposées. Les États-Unis, après avoir envenimé la situation lors de la visite du président Trump à Riyad, semblent vouloir désormais jouer le rôle de médiateur. Le secrétaire d'État américain a multiplié les rencontres pour trouver une solution à la crise. Pour le politologue Sébastien Sens de la Société allemande pour la politique étrangère, le Qatar entretient ses relations politiques complètement différentes de l'Arabie Saoudite.
Au contraire, il tente de se présenter comme un acteur qui peut parler avec tout le monde. Et contrairement à d'autres acteurs de la région, comme l'Arabie Saoudite, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conciliant et cherche le dialogue. Ceci est valable dans sa façon de traiter avec le Hamas ou avec les talibans. On dit qu'il est insensé d'isoler ces groupes. Ils veulent parler aux gens, les incorporer pour désamorcer les conflits. Ils veulent éviter que ces groupes se radicalisent davantage.
L'Iran envoie chaque jour par voie maritime quelques 1100 tonnes de fruits et légumes au Qatar. Mais les deux pays n'ont pas forcément les mêmes approches géopolitiques.
Politiquement, les deux ne sont pas si proches que cela. Le Qatar et l'Iran n'ont pas vraiment conclu un mariage d'amour, mais plutôt un mariage de raison. Il doit être respecté du point de vue qatari, sinon je ne vois pas comment le Qatar peut survivre économiquement. D'autant si, par exemple, il y avait vraiment des conflits entre le Qatar et l'Iran concernant l'utilisation du champ de gaz qu'ils ont en commun. C'est inacceptable pour le Qatar et ainsi il serait très difficile de rompre ces relations diplomatiques.
La Turquie a aussi réagi face à l'exigence d'un retrait de ses troupes du Qatar. Pour Ankara, c'est une forme d'irrespect pour la Turquie. Le Parlement turc a approuvé le 7 juin dernier la mise en œuvre d'un accord datant de 2014 permettant le déploiement de plusieurs milliers de soldats sur une base turque au Qatar.
Deutsche Welle, le sport. Ali Farhat.
Alors Ali, hier soir, le Chili s'est qualifié pour la finale de la Coupe des Confédérations en venant à bout du Portugal.
À 15 ans, cette première demi-finale a jonglé entre le moyen et le mauvais, les deux équipes se livrant à une véritable bataille physique. 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 également en prolongation, malgré cette double occasion chilienne à la 119e minute, avec un poteau d'Arturo Vidal suivi d'une barre transversale de Martin Rodriguez.
Donc pas de but au bout de 120 minutes de jeu, ça devait commencer à tirer dans les mollets. Et lors de la séance de tir au but, un gardien va s'illustrer.
Oui, il s'agit de Claudio Bravo. Alors que ses coéquipiers Arturo Vidal, Charles Aránguiz et Alexis Sanchez marquent leur tentative, le portier chilien, lui, détourne les frappes de Quaresma, Moutinho et Nani. Le Chili s'impose 3-0 au tir au but. On écoute la réaction du héros du jour.
Je ne pense pas que ce soit de la chance, mais du travail. De nos jours, il est possible d'avoir accès à un tas d'informations et de travailler dans de bonnes conditions. Au-delà de ça, il faut dire que nous sommes restés très calmes. C'était un match tactique, mais également physique, avec beaucoup de dynamisme. Et puis, il y a eu la séance de tir au but. Je savais ce que j'avais à faire et nous quittons le terrain sur une satisfaction, celle d'avoir éliminé les champions d'Europe.
Dimanche, le Chili affrontera en finale le vainqueur de la seconde demi-finale entre l'Allemagne et le Mexique. Une rencontre qui aura lieu ce soir à partir de 18h en temps universel.
Et puis Ali, en athlétisme, Usain Bolt prépare lentement mais sûrement sa sortie.
Hier, lors du meeting d'Ostrava en République tchèque, l'octuple médaillé d'or aux Jeux Olympiques, qui a été d'ailleurs célébré comme il se doit par le public, a remporté l'épreuve du 100 mètres en 10 secondes et 6 centièmes. Pas le meilleur de ses chronos, mais l'essentiel est assuré en vue des mondiaux d'athlétisme qui auront lieu à Londres du 4 au 13 août prochain. Par ailleurs, Wayde van Niekerk confirme qu'il sera l'une des stars de demain. Recordman du 200 mètres, le Sud-Africain a réalisé la meilleure performance de tous les temps sur 300 mètres avec un chrono de 30 secondes et 81 centièmes. Par ailleurs, à noter la victoire de Mo Farah en 27 minutes, 12 secondes et 9 centièmes sur 10 000 mètres. Et chez les dames, la médaille d'or est pour Marie-Josée Talou sur 200 mètres, l'Ivoirienne qui s'est imposée en 22 secondes et 44 centièmes.
C'est toujours bien de toujours terminer par le meilleur. Merci Ali Farhat, on vous retrouve dans le journal de 17h TU.
Invité de la rédaction.
Le 1er juillet prochain, la Cour pénale internationale aura 15 ans. C'est en effet le 1er juillet 2002 qu'est entré en vigueur le fameux statut de Rome suite à sa ratification par 60 États. Alors qu'a pu faire cette juridiction jusqu'ici? La question oppose cette semaine nos invités du débat Arbre à Palabre, dont la rubrique qui suit est un extrait. Pour en parler, Fréjus Kenom a convié Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale, le docteur Pierre Bidima, président du Mouvement pour la paix au Burkina Faso, et Alioune Tine, responsable de l'ONG Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est lui le premier intervenant.
Cette cour, il fallait tout simplement la créer parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont victimes d'atrocités, surtout lors des conflits. Et effectivement, ces personnes ont droit à la justice. Il y a des pays où il n'y a plus d'État, plus d'institutions. Je pense qu'ils ne peuvent compter que sur la CPI.
Pierre Bidima du Burkina Faso, président du Mouvement pour la paix. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alioune Tine que, en quelque sorte, la CPI est un médicament contre l'injustice auquel on ne peut pas renoncer et qu'il fallait créer cette cour? Est-ce que vous êtes du même avis?
Au départ, on était tous enthousiasmés. On se disait que c'était une bonne chose. Mais aujourd'hui, Alioune Tine doit quand même comprendre qu'il faut nuancer ses propos parce que aujourd'hui, la mise en œuvre de cette cour-là, c'est une déception totale au niveau
de nous autres signataires qui nous réjouissions dans les années 98-2000.
Ah bon?
Sa mise en œuvre est complètement ratée.
Dans quel sens?
Et puis, je crois que le porte-parole de la CPI à vos côtés, et qu'ils nous disent pourquoi les grands pays, qui membres du Conseil de sécurité, pourquoi eux, ils refusent les rentrées. C'est une bonne chose, ils le feraient.
Oui.
Ce sont des pays qui sont prompts à demander des enquêtes ici et là. Certainement, c'est légitime. Mais pour que ces enquêtes aboutissent, pourquoi eux ne sont pas membres de cette CPI?
Monsieur Fadi El Abdallah, il y a d'autres, les États-Unis par exemple, les États-Unis, la Russie, la Chine.
La Russie ou la Chine, ça je comprends, ils ne sont pas des États partis, mais en même temps il faudra faire la part des choses. D'abord, c'est le droit souverain de chaque État de décider de se joindre ou pas à un traité international. De deux, c'est vraiment le rôle des États qui sont partis au statut de Rome de convaincre et de parler aux autres États pour participer à cette aventure commune, parce que la CPI est créée par les États. Et c'est les États qui doivent défendre ce projet et apporter plus de soutien à ce projet-là.
Depuis 15 ans, on n'a pas réussi à convaincre ces États.
Alors, la Cour elle-même, ce qu'elle peut faire, c'est essayer de convaincre les États en montrant l'indépendance judiciaire de la CPI et la qualité de la procédure devant la CPI. Maintenant, il faudra apporter plus de précision pour expliquer que le fait qu'un État n'est pas parti au statut de Rome ne signifie pas nécessairement que les individus citoyens de cet État-là ne pourront pas être poursuivis devant la CPI.
On n'a pas encore vu qu'un pays comme les États-Unis extrade son ressortissant pour être jugé par une cour comme la CPI, M. Alioune-Tine.
C'est en réalité Bush qui a retiré la signature effectivement de la CPI. Bon, moi je voudrais quand même aujourd'hui revenir sur une chose, que les choses soient claires. Essayons de faire la justice pour nous-mêmes, pour les citoyens africains eux-mêmes, pour la dignité effectivement de la personne africaine. Au lieu que tout le temps, effectivement, nous avons des dirigeants qui ne veulent pas être jugés, qui commettent des crimes, qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas la personne humaine africaine, mais après, on ne va pas se plaindre.
Pierre Bidima, du Burkina Faso, que pensez-vous de ce que vient de dire Alioune Tine?
On dirait que les crimes que les Africains commettent sont spécifiques à ces Africains. Les autres aussi commettent les mêmes crimes, sinon plus graves. N'avez-vous pas appris que des bâtiments des MSF, Médecins Sans Frontières, ont été bombardés en Afghanistan, alors que les responsables des MSF ont bien indiqué aux soldats, aux responsables, que c'était leur implantation? Ça, ce n'est pas des crimes, des grâces. Pourquoi on ne juge pas les autres? La CPI ne fait que regarder vers les pays du Sud et les petits États faibles de l'Europe orientale. Comptez le nombre de gens qui sont à la CPI aujourd'hui et faites la statistique. Il y a combien d'Occidentaux là-bas? Eux, ils ne commettent pas de crimes de guerre? Ils ne commettent pas de crimes contre l'humanité? Si les Africains ont des problèmes pour juger leurs criminels, aidez-les. Ils ont des problèmes de moyens financiers, c'est tout. Le jugement de Hussein Nabré au Sénégal est un exemple qui montre que si les Africains ont des moyens, ils peuvent mettre en place des juridictions pour juger leurs criminels.
Comment se présente donc la situation pour la CPI qui a 15 ans maintenant? Pour l'avenir, il y a de nouvelles menaces, la menace terroriste par exemple. Est-ce que ce sont de nouvelles missions pour la Cour pénale internationale, Monsieur Fadi El Abdallah?
Pour le moment, non. Il faudra noter que seulement les États peuvent modifier ce traité. La CPI elle-même ne peut pas modifier son propre statut. Mais il faudra comprendre également que lorsque des actes criminels, que ce soit terroristes ou autres, peuvent tomber sous la qualification de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre ou de crimes de génocide, dans ce cas-là, la CPI pourra les poursuivre, mais sous cette qualification-là.
Et donc, à vous la parole maintenant, Mireille Drone, qui a rassemblé vos commentaires à la veille du retrait des forces de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire.
Des commentaires pas très enthousiastes. Yves, de Dakar au Sénégal, trouve que le bilan de l'ONUCI est négatif parce que l'ONU a décidé de qui a gagné les élections ivoiriennes. Elle a pris fait et cause pour Alassane Ouattara et tant pis pour les perdants, regrette notre auditeur. C'est aussi l'avis de Saliou, de Bouikon, Bénin. Si vraiment les forces de l'ONUCI étaient là pour s'interposer entre les deux camps et qu'elles partent maintenant, au moment où la tension est vive sur le terrain, alors là, je dirais qu'elles étaient là pour permettre à la France de placer Alassane Ouattara au commandement. demande et sécuriser ses intérêts. Dans ce cas, mission accomplie, écrit-il. Un brin amer aussi, Kevin, depuis la Bavière, estime que l'ONUCI a bien évidemment accompli sa mission. Pas celle mentionnée dans les documents, non, mais leur vraie mission officieuse qu'aucun Africain averti ne peut ignorer. La marraine de New York pense de son côté que le bilan de cette mission est mitigé. L'objectif principal des forces onusiennes est le maintien de la paix et surtout de sauver des vies humaines. Mais en Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique d'ailleurs, leur présence attise la violence entre frères ennemis, écrit la marraine. Du coup, il pense qu'il est temps que l'Afrique gère ses propres crises.
Alors que Sylvie, que retenir en deux mots de l'actualité de ce jeudi 29 juin 2017 ?
Sous la pression des États-Unis, l'ONU devra réduire le budget des casques bleus. Et en France, ces trois associations ont annoncé qu'elles vont déposer aujourd'hui à Paris une plainte visant la banque BNP Paribas pour complicité de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité dans le cadre du génocide rwandais.
Merci Kossi Bitiassou, c'est la fin d'InfoMatin. On se retrouve ce soir à 17h, temps universel sur les ondes de la Deutsche Welle. Excellente journée à tous. Tchuss.